Charles-Philippe David, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous écrivez en ouverture de Comment Trump a-t-il changé le monde, que Trump a bouleversé les équilibres mondiaux. Vous parlez même d'un tournant. Pourquoi?
Je crois que c'est un tournant en raison de la diplomatie extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante, de cette administration et qui n'a pas, durant ce mandat, était en mesure de préserver le leadership des États-Unis sur la scène internationale. On peut d'ailleurs mesurer cette perte de leadership par le fait simplement que la réputation des États-Unis est à son plus faible niveau depuis la guerre du Vietnam. Imaginez pire encore que suite à l'invasion de l'Irak. Donc c'est quand même un résultat qui fait très mal à ce leadership américain. Et c'est un tournant dans la mesure où ce leadership va bien sûr favoriser, sans nul doute, l'ascension toujours irrémédiable de la Chine, non seulement dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère diplomatique. Donc, c'est un peu tout cela que nous expliquons dans ce livre.
Vous soulignez dans votre livre aussi que la pandémie de la COVID est venue amplifier les conséquences de la politique étrangère de Trump.
Ah, certainement, parce que je crois que des deux côtés de l'Atlantique, on était en mesure de constater à quel point le leadership américain, pour rebondir sur ce que je disais, est absent, complètement absent. À la fois, d'ailleurs, à l'intérieur des États-Unis pour gérer la crise, ça, d'ailleurs, c'est un élément qui va jouer énormément durant l'élection, mais aussi à l'extérieur, dans la mesure où il n'y a aucun plan international, sinon que l'addition de plans nationaux pour contrer cette pandémie. Il fut un temps, face par exemple à la crise de l'Ebola, où les États-Unis avaient exercé un tel leadership, un tel rôle de rassembleur et de coordonnateur d'une réponse internationale qui est totalement absente cette fois. Et d'ailleurs, même pire encore, quoi qu'on ne peut pas démentir que le virus est originé de Chine et que la Chine soit grandement responsable de la crise que nous traversons, il reste que ce n'est pas en lançant des accusations et en attirant encore plus l'opprobre d'autres pays que les États-Unis peuvent bénéficier de cette aide et de cette coordination internationale. Donc, on est dans une situation de recul, certainement accélérée, que la pandémie a provoquée.
Alors, vous parliez des reculs. Vous en citez quatre dans votre livre, les reculs diplomatiques, démocratiques, sécuritaires, normatifs. Alors, commençons par le recul diplomatique. Il faut le dire, la doctrine America First qui est prônée par Donald Trump s'est traduite par une série d'attaques de front contre le multilatéralisme et c'est bien souvent fait au détriment des alliés traditionnels des États-Unis.
Oui, tout à fait. Et ce que nous expliquons, c'est que, en fin de compte, Trump a traité ses alliés comme s'ils étaient des ennemis. Et à la rigueur, même traité ceux-ci mieux que cela. Et donc, dans deux domaines précisément, le premier, certainement, c'est celui de la sécurité collective. L'OTAN, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a quand même dû faire face à quelque chose de tout à fait inusité avec ce président. Un président prêt à non pas aider une organisation, mais à la détruire au besoin si cette organisation ne rencontrait pas ses exigences. Ce n'a pas été facile les trois dernières années. Au Canada, nous en savons quelque chose, car un des sommets, pas de l'OTAN, mais quand même, juste avant celui de l'OTAN du G8, a mené un affrontement presque ouvert entre les alliés et Trump sur des réponses multilatérales face à un certain nombre de problèmes. Donc l'OTAN est un peu pour moi l'illustration d'un malaise dans la gestion du multilatéralisme qui fait très très mal au rapport entre les États-Unis et leurs alliés. Un deuxième exemple, et bien sûr vous l'aviez évoqué, c'est celui du commerce. Que les États-Unis se fâchent avec la Chine sur la question commerciale ne surprend personne. Ça fait quand même un moment que ça bouille et que ce problème empire. Mais que les États-Unis se fâchent avec des pays comme le Canada, voire des pays européens, le Japon, la Corée du Sud, pour obtenir de meilleures conditions commerciales en risquant des affrontements qui sont coûteux, l'imposition de taxes supplémentaires sur les importations et ainsi de suite, de frais douaniers, a eu l'air d'accroître vraiment le sentiment protectionniste américain et cela fragilise le système économique international.
Alors, vous parliez de la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée contre la Chine, mais en même temps, vous le signalez bien dans votre livre, on est à un moment de bascule dans le leadership mondial entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que cette guerre commerciale était l'outil qu'il fallait utiliser et comment est-ce que cette transition qui est actuellement amorcée peut évoluer?
Écoutez, en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Les règles commerciales déjà existent. Donc, les remettre en question, certes, mais pour les amender et les corriger, encore faudrait-il qu'il y ait un accord de tous les pays partenaires pour les mettre en œuvre. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, ce sont plus des décisions unilatérales par le président américain qu'une concertation multilatérale pour revoir les règles du jeu. D'ailleurs, au moment où peut-être il serait souhaitable que ces règles soient révisées, le président américain a décidé de ne pas nommer de représentant américain au tribunal d'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, dans ce cas, il me semble bien difficile de conclure à une évolution intéressante ou positive, même pour les États-Unis, des règles du commerce international. Au contraire, on peut certainement prévoir une augmentation de l'intensité de la rivalité entre les États-Unis et la Chine sur le plan commercial.
Alors, parmi les reculs, il y a aussi les reculs démocratiques. Et finalement, on peut inclure dans ces reculs les États-Unis avec une vie politique bloquée. Elle était certes déjà grippée avant Donald Trump, mais la présidence de Donald Trump n'a fait que la polariser.
Oh, alors, c'est même d'hyperpolarisation dont il faut parler. Et aujourd'hui, face aux tensions raciales, aux conséquences de la pandémie, à la crise économique sévère quand même que les États-Unis vivent actuellement avec un taux de chômage qui n'a pas été vu depuis des décennies, Trump profite de ces crises pour encore plus et davantage diviser l'électorat pour essayer d'être réélu sur un fond de violence accrue et de besoin d'ordre accru selon évidemment sa vision des choses.
On sait que les États-Unis aimaient être la cité sur la colline qui brille, qui a une destinée manifeste et qui doit donner l'exemple dans le monde. Tout cela est désormais caduc avec la présidence de Donald Trump.
Le sous-titre que nous donnons dans le livre « La cité de la colline ne brille plus » répond à votre question. La réputation et l'image des États-Unis sont à ce point ternis que l'exceptionnalisme américain, non seulement n'est plus exceptionnel, mais exceptionnellement mauvais. Et ça, ça contribue encore un peu plus à la perte du leadership américain, car si le pays qui se réclame d'être la plus vieille démocratie du monde n'est plus capable de donner l'exemple démocratique, quel leadership pouvez-vous assumer ou assurer dans le système international pour faire la promotion de la démocratie? Ce que, de toute façon, Donald Trump délaisse, puisque pour lui, la promotion des valeurs démocratiques, des droits de la personne, comment dire, est très très loin de ses priorités.
Et les États-Unis qui ne jouent donc plus le rôle du leadership entraînent donc un recul sécuritaire. C'est le troisième volet de votre livre, avec le retour de la course aux armements et surtout la montée des conflits régionaux.
Oui, tout à fait. Sur le plan sécuritaire, on pourrait dire que c'est d'ailleurs peut-être le volet pour lequel on assiste au plus grand recul dans le système international. Vous l'avez mentionné, le réarmement est quand même absolument spectaculaire. Depuis la fin de la guerre froide, on atteint des sommets inégalés et comparables à ceux imaginés déjà de la guerre froide. Sur fond de conflits régionaux qui peut-être posent des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution évidente, je pense certainement au Golfe Persique et la situation avec l'Iran, que la diplomatie américaine a contribué là aussi à aggraver sérieusement suite au déchirement de l'accord nucléaire de 2015. Sans mentionner d'autres exemples comme ceux de la Syrie, pour laquelle la situation en Syrie, Trump a pris des décisions pour le moins controversées.
Et vous écrivez que ce recul des relations internationales pourrait s'avérer irréversible?
Oui, tout à fait, pour une raison toute simple. Si le 45e président des États-Unis est réélu pour un deuxième mandat, nous croyons sincèrement que les quatre prochaines années confirmeraient ces reculs importants et rendrait effectivement quasi irréversible ces tendances. Si en revanche le duo Biden-Harris est élu, il est possible que cette tendance soit réversible, mais les dommages causés par la politique étrangère de Trump resteront quand même très importants. Et je ne crois pas qu'il y aura de baguette magique rapidement pour résoudre tous les enjeux auxquels une nouvelle administration ferait face.
Et ce que vous écrivez quand même dans votre conclusion, c'est que le nouveau président, même s'il mène une politique favorable au multilatéralisme pour effacer les reculs, vous écrivez qu'il faudrait qu'il mène une politique différente de celle de Barack Obama.
Alors, oui, je pense que ça va prendre une empreinte beaucoup plus forte dans le système international pour réparer les morceaux cassés par Trump que l'empreinte douce ou légère que Barack Obama avait menée. Donc, je crois que ça va prendre une politique étrangère innovante. Et une politique étrangère innovante doit tenir compte aussi du sentiment des Américains qu'ils en ont trop fait dans le système international. Ce sentiment est très, d'ailleurs, lié à la base républicaine de Donald Trump. En même temps, et en revanche, la majorité des Américains croient encore au multilatéralisme, au bienfait des institutions internationales, au bienfait du commerce international, et croit encore que les valeurs américaines sont les bonnes valeurs pour guider le système international. Donc, il faut nager en pleine contradiction ici et trouver une politique étrangère, je répète, innovante, qui va permettre à une administration démocrate, si elle est élue, de pouvoir retrouver peut-être certains des socles qui ont fabriqué l'ordre international et souri à la cause américaine dans le passé, mais en même temps, peut-être avec des méthodes un peu différentes et avec surtout des projets différents. Par exemple, face à la Chine, il est clair qu'il y a maintenant un consensus que la Chine n'est plus un concurrent des États-Unis, mais un adversaire des États-Unis. Donc, les solutions du passé ne pourront pas fonctionner, même sous une administration démocrate, donc par exemple les solutions d'Obama, ne pourront pas fonctionner avec la Chine. Il va falloir donc innover. En revanche, je pense que la méthode d'affrontement de Donald Trump, qui est une méthode assez démagogique pour gagner ou préserver son électorat, n'est pas non plus une très bonne façon de faire avec la Chine. Donc, ce sera une politique extrêmement importante que devront mettre de l'avant les démocrates et elle devra être innovante, je le répète.
Et comme vous l'écrivez, l'élection de 2020, donc du 3 novembre 2020 aux États-Unis, est donc cruciale aussi bien en interne qu'au niveau global. Merci beaucoup, Charles-Philippe David.
Je vous en prie.